Flashback.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback. Je suis Julien Ferrand et je suis en bonne compagnie aujourd'hui avec Marc Bonamour, CEO de Skippers. Bonjour Marc.
Bonjour Julien.
Merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Skippers, c'est un groupe qui a été créé en 2019, une émanation de la marque Avis Vérifié que tout le monde connaît. Ça avait 7 ans à l'époque, Avis Vérifié. Et puis le groupe Skippers n'a cessé de croître depuis avec une dizaine d'acquisitions, dont une toute récente, l'acquisition de Tokiwoki. Alors félicitations déjà pour cette
Merci.
Nouvelle acquisition dans cet épisode. Alors on va parler de Tokiwoki entre autres, on va parler de la conduite du changement, on va parler d'engagement dans tous les sens du terme, enfin pas tous les sens du terme non plus, mais dans beaucoup de sens du terme engagement. Et puis enfin, on parlera d'authenticité en communication et en management. Pour commencer ce flashback, Marc, on a des petites questions traditionnelles. La première vise à te questionner sur est-ce que tu te rappelles de ton premier jour chez Skippers?
Alors, je me rappelle très bien de mon premier jour chez Skippers, puisque c'était en novembre 2021. Et la particularité de ce premier jour, c'est que j'ai rejoint une entreprise de 450 collaborateurs où il n'y avait pas de bureau. Ou plus exactement, pas de bureau Skippers, puisque Skippers, c'est, tu le disais tout à l'heure, une dizaine de sociétés rachetées.
Ouais.
Et quand j'ai rejoint en novembre 2021, finalement, il y avait une toute petite équipe Skippers en tant que telle qui était dans un espace de coworking. Donc voilà, donc mon premier jour, c'était avec quelques personnes dans une boîte de 450 personnes.
En fait, c'était le début de tes services globaux, en fait, qui allaient ensuite piloter l'ensemble des 8 à 10 marques qui existaient.
C'était le début de ce qu'on a réalisé après, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, sur le regroupement de l'ensemble de ces entités.
Ouais, d'accord. Aujourd'hui, tu es le CEO de Skippers. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton métier au quotidien? C'est quoi tes missions?
Mon métier au quotidien? Alors, si je devais synthétiser, digérer de l'information, beaucoup d'informations.
Ouais.
Décider, régler des problèmes. Voilà un peu. Et évidemment, au milieu de tout ça, tracer le chemin, montrer la voie.
Ouais.
Évidemment, donc le leadership. Mais d'un point de vue opérationnel, beaucoup de sujets à traiter, à décider, à arbitrer.
Ouais, je comprends, parce qu'en fait, vous avez fait un sacré bout de chemin, pour le moins qu'on puisse dire. Skippers, c'est le regroupement, comme je disais en introduction, de plusieurs entreprises, de plusieurs équipes qui ne se connaissaient pas, en fait. Et ça a été au cœur de tes premières missions, j'imagine, c'est Skippers, de créer un sens commun.
Ouais, alors pour être tout à fait honnête, ça reste au cœur de ma mission.
Encore aujourd'hui, c'est jamais fini.
Aujourd'hui, j'imagine. Parce qu'en fait, en 2021, Skippers, donc, c'était 10 entités, quasiment 500 collaborateurs, mais chacune avec sa culture propre, son produit, son business. Et puis, on a rassemblé l'ensemble des équipes dans une entité sous une bannière Skippers. Avec Avis Vérifié qui subsiste parce qu'il y a une connotation consommateur, mais et évidemment, on a commencé à créer une culture, un ciment en fait qui permet de regrouper l'ensemble des collaborateurs.
Très belle histoire. Toi, ton parcours, c'est pas le marketing digital. Enfin, si on peut dire dans une grande catégorie, Skippers, c'est un acteur du marketing digital. On peut dire ça sans dire trop de bêtises.
Ouais.
Toi, c'est pas ton métier d'origine.
Non.
Quand t'arrives sur ce sujet, Skippers, c'est quoi qui t'anime? C'est quoi t'as envie d'aller apporter?
Alors mon parcours, c'est plutôt effectivement le digital au sens large et plus spécifiquement le software as a service.
Très bien.
Donc le cloud.
Ouais.
Ça fait 20 ans que je suis dedans. Sur des fonctions initialement finance.
Okay.
Donc le chiffre.
Ouais.
Puis ensuite de la direction générale, le management, de la direction commerciale, les sales. Et donc, je suis arrivé avec un bagage un petit peu différent et peut-être une vision des choses peut-être un petit peu différente. Je crois que c'est ce qui fait aussi la richesse, d'ailleurs, la diversité des expériences des uns et des autres. Ce qui m'a attiré, c'est l'ambition d'aller vite. Un domaine ultra innovant, parce que quand on dit le marketing digital, et on en parlera un petit peu après, plus spécifiquement, l'engagement client, les UGC, il y a beaucoup d'innovation dans ce domaine-là, et qui est aussi drivé par l'innovation technologique. Et donc, j'ai trouvé que c'est un domaine extrêmement excitant, et puis avec des enjeux également en termes d'organisation de management qui étaient importants.
Ouais, c'est-à-dire la vitesse à la fois sur ce côté managérial de faire sens commun, de faire société, d'une part, et la vitesse sur l'évolution du produit, de rester dans le coup, en fait, de pas prendre de retard sur un marché qui innove énormément, comme tu disais.
Qui innove énormément, et puis un besoin, donc un marché client, cette fois, qui croît beaucoup. puisque ouais. les marques ont un gros enjeu ou des gros enjeux autour de la thématique de l'UGC.
Ouais. Ok, intéressant. On va rentrer sur ces volets métiers dans le deuxième chapitre de ce flashback. Moi, je voudrais que tu me parles un petit peu encore de cette prise de poste. C'est quoi ton premier chantier quand tu arrives ici, chez Skippers?
Le premier chantier, c'était un chantier, alors j'allais dire people, personne, ouais. collaborateur, équipe. Parce que on a regroupé l'ensemble des équipes au sein d'une entité Skippers, comme je disais, et là où ouais. auparavant on avait 10 entreprises, et si je caricature un petit peu, 10 personnes qui faisaient la même chose chacune dans leur entreprise, eh bien le lendemain, ou de manière assez rapide, on a regroupé l'ensemble des équipes et fait en sorte que Skippers, une entreprise, avec chacun sa fonction.
Ouais.
Et donc le sujet de réorganiser, ou plutôt d'organiser d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas d'organisation, mais d'organiser, mmh. et puis ensuite d'embarquer les gens, et surtout d'embarquer les gens d'ailleurs, a probablement été le chantier, reste encore, parce qu'il y a encore des aspects de communication, mais reste le chantier le plus difficile, et avec un enjeu clé, comme je disais à l'instant, la communication. Ouais. L'enjeu premier, ça a été la communication, faire comprendre, ou expliquer plutôt que faire comprendre, expliquer aux collaborateurs ce qu'on voulait faire, mmh. expliquer pourquoi on le faisait, et pour être tout à fait honnête, on est allé très vite, on avait besoin d'aller très vite, et par moment, on n'a pas été les meilleurs du monde en communication. C'est une des leçons que je retiens de cette expérience, c'est la communication, la communication, la communication.
Tu crois que c'est possible d'allier vitesse et collectif ?
Bah, si on regarde dans le sport, oui.
Ouais.
En tout cas, dans l'exécution.
Tu penses à quoi ? C'est intéressant le parallèle que tu fais avec le sport.
Non, mais je pense que dans le sport, on se retrouve vite autour de valeurs. On peut vite se retrouver autour de valeurs communes au sein de dans un collectif sportif, parce qu'on va vouloir l'envie de gagner, l'envie de ouais. se dépasser, le goût de l'effort, l'entraide. Et sont finalement des valeurs qu'on retrouve de toute façon dans un collectif quel qu'il soit.
En tout cas, qui est hyper oui. louable, mais qu'on retrouve pas toujours.
C'est vrai.
Pour autant, mais par contre, qui sont fondatrices. Je suis d'accord avec toi.
En tout cas, dans le monde du sport, ouais. ils sont des valeurs qui sont assez évidentes. On n'a pas forcément besoin de les exprimer, ou en tout cas de les matérialiser ou de les porter. Elles s'incarnent facilement. Dans le monde de l'entreprise, bon, il faut faire des efforts.
Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. C'est des analogies que tu utilises parfois dans ton management, le rapport au sport.
J'essaye de ne pas trop le faire,
ouais.
Parce que on peut pas être non plus que dans la performance. Et dans une entreprise, ou plus exactement, on peut avoir une ambition de performance. Maintenant, ce type de discours ne parle pas à tout le monde,
ouais.
et donc il faut l'adapter. Donc ouais. régulièrement, je vais parler de performance. Je pense que c'est un des points importants, c'est d'assumer le fait que nous voulons être performants, nous visons l'excellence. On est loin de l'atteindre, hein, mais on la vise. Mm-hmm. Maintenant, c'est pas un discours qu'on peut porter au quotidien, parce que c'est un discours qui peut aussi être épuisant.
Ouais, ouais, je comprends. Et d'où la nécessité de bien travailler sur ces éléments de communication interne qui vont réussir à embarquer tout le monde. C'est ce que tu évoquais.
Ouais, et c'est là où je disais que ça a été probablement un de nos points faibles, en particulier en 2022, quand on a fait finalement les premiers pas, c'est que nous sommes pas, en tant que skippers d'une entreprise, des experts de la communication interne. Et donc on s'est un peu fait accompagner, mais peut-être qu'on aurait pu faire beaucoup plus sur ce sujet-là. En tout cas, on en a retenu que c'était un élément extrêmement important et on essaye de s'améliorer sur ce sujet-là.
Ouais. Si tu avais des tips à partager avec notre audience sur une manière de bien gérer cette communication interne, est-ce que tu accepterais de le faire? Est-ce qu'il y a, alors sans forcément revenir sur des cas particuliers, mais peut-être méthodologiquement des choses qui pourraient être utiles à notre audience?
Oui, alors méthodologiquement ou plus généralement, je pense que la transparence, c'est un des sujets clés, parce qu'au final on se rend vite compte que si on n'est pas transparent, on se prend vite les pieds dans le tapis, surtout quand on veut aller vite.
Ouais.
La notion d'ambassadeur. C'est marrant parce que ce sont des sujets dont on parle pour les clients,
ouais.
et pour les collaborateurs, c'est très vrai aussi. C'est finalement avoir des ambassadeurs qui sont capables de porter les messages et de les relayer, parce que un des enjeux clés, c'est de bien faire comprendre les choses, et un message passe rarement bien quand on ne l'a dit qu'une fois. Ouais. Et donc, il faut le répéter sous différents angles. Et c'est là où des relais en interne peuvent être utiles.
Donc, c'est le cercle de confiance qui va.
C'est le cercle de confiance, c'est la transparence. On peut utiliser les mots de sincérité et authenticité, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure.
On va en reparler.
Qui sont des enjeux clés.
Ok, passionnant. Donc, ça, c'est la partie change management. Tu parles de l'importance d'avoir cette équipe, d'avoir la maîtrise, ou en tout cas l'attention nécessaire à porter à la communication interne. Derrière, tu l'évoquais un peu en faisant le parallèle avec le sport, il y a cette notion d'engagement aussi qui constitue un socle un peu dans ton parcours de carrière. Est-ce que tu acceptes de nous en dire un petit peu quelque chose? Parce que marketing digital, c'est pas ton socle d'origine.
Non.
Par contre, il y a un socle qui est commun entre le SaaS et le marketing digital, c'est cette notion d'engagement, justement.
Oui, et alors en fait, ça fait écho à une expérience ou une entreprise dans laquelle j'étais auparavant, et nous étions, enfin l'entreprise est toujours d'ailleurs dans le domaine de la RH.
Très bien.
Enfin, logiciel SaaS pour la RH. Et l'analogie, je l'ai faite rapidement en arrivant chez Skippers, puisque, et avant, dans la réflexion que j'avais de rejoindre Skippers, puisque quand on parle de RH, en général, on va très vite parler d'engagement collaborateur, d'acquisition, recruter, de rétention, garder les collaborateurs, développement, nurturing, comment on fait grandir des collaborateurs. Mm-hmm. Et finalement, ce sont exactement les mêmes thématiques qu'on trouve autour de la thématique de l'engagement client, autour du sujet de l'engagement client, avec l'acquisition, la rétention, le nurturing, sont les mêmes sujets. Alors, ils ne sont pas adressés de la même façon, mais au final, on parle dans les deux cas d'une personne, d'un humain au bout de la ligne à qui on vend soit l'entreprise dans laquelle on est, c'est la partie RH, soit le produit ou le service qu'on commercialise, c'est la partie client, évidemment.
Ouais, c'est intéressant de faire ce parallèle entre un parcours de carrière et un parcours d'achat, en fait, d'une certaine manière. Et comment ça va accompagner de bout en bout pour pouvoir faire en sorte que cette expérience soit
la meilleure possible.
La meilleure possible. Donc cet engagement client, c'est bien la promesse du groupe Skippers. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de Skippers, on va parler un peu plus de votre métier maintenant. Ce que je vois sur votre page d'accueil, c'est cette notion d'UGC qui ressort très très fort. Est-ce que tu acceptes de nous en dire un petit peu plus? C'est quoi l'UGC?
Oui, alors UGC, ça veut dire en bon français User Generated Content.
Très bien.
Ou contenu généré par les utilisateurs. Et c'est vrai que Skippers était positionné ou est positionné sur l'engagement client. Mais il y a quelques temps déjà, on s'est rendu compte que l'engagement client, c'est un domaine très vaste. Il y a beaucoup de sociétés d'ailleurs qui mettent en... Je parle du SaaS évidemment, de ceux qui développent des solutions logicielles, qui mettent en avant cette thématique. Et donc on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui faisait notre spécificité.
Ouais.
Et notre spécificité, ça c'est sous l'impulsion d'Angélica Reyes, notre directrice marketing, cette spécificité, c'est que nous nous intéressons plus particulièrement à la manière d'utiliser les contenus qui sont générés par des utilisateurs, des consommateurs, au bénéfice des marques. Et donc, c'est cette notion d'UGC, en fait, que nous adressons dans l'ensemble des produits que nous avons acquis et que nous commercialisons aujourd'hui. C'est la capacité à, pour une marque, pouvoir, à l'échelle, c'est-à-dire de manière industrielle, collecter ou faire créer, gérer et activer des UGC de façon à porter quelque part un discours d'authenticité, ou en tout cas renforcer un discours d'authenticité.
Ok. Donc ça veut dire que, en tant que marque, j'accepte de déporter une partie de mon discours entre les mains de mes consommateurs, c'est ça?
Oui, je dirais peut-être pour préciser qu'en tant que marque, j'assume d'être transparent sur ce que mes consommateurs disent de moi, de mes produits, de mes services.
Ok. En fait, cette notion de contenu, c'est marrant parce que tu vois, le mois dernier, j'interviewais Hugo Borenstein de la startup Omi, et dont le modèle économique repose sur la création de contenu depuis la 3D. Bon, là, finalement, on est clairement dans le contenu, généré par l'utilisateur, encore une fois. Le contenu, en fait, c'est le socle commun de toute stratégie de communication depuis aussi loin que je l'ai en souvenir. Ce qui change en permanence, en revanche, c'est les usages, c'est les canaux, c'est les formats. Comment est-ce qu'on fait pour rester à la page de ça, de ces nouveaux usages?
Alors, rester à la page, j'ai sans doute pas la recette magique pour rester à la page. En tout cas, je pense que ce qu'on voit Et par rapport à ce que tu disais, les contenus, effectivement, ça existe depuis très longtemps. Le consommateur qui a voix au chapitre dans une stratégie de marque, ça existe depuis un peu moins longtemps. Ouais. Et tout simplement parce que, et là c'est l'innovation technologique, tout simplement parce que sont arrivés les réseaux sociaux et la capacité pour un consommateur à avoir une caisse de résonance qui n'existait pas auparavant. Mmh. Et donc aujourd'hui, les marques sont confrontées au quotidien à une prise de parole par des consommateurs sur des médias divers et variés qui peuvent être des réseaux sociaux, des blogs, etc. Et qui font que c'est devenu une réalité du quotidien.
Ouais. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, quand je commençais ce métier-là, j'accompagnais les marques pour se lancer sur les réseaux sociaux, notamment. J'avais beaucoup de marques qui me disaient « Non, on ne veut pas aller sur Facebook parce qu'on risque d'être critiqué ».
Ah oui.
ça existe encore, ça? Des marques qui refusent de dialogue? Non.
Refusent de dialogue? Non. En fait, je pense que des marques, je pense pas qu'il y ait pas une marque qui n'ait pas pris conscience de l'importance. Par contre, des marques ne jouent pas, ou plutôt n'activent pas le levier de l'authenticité, il y en a encore qu'il faut convaincre. Et ce que je dis en général, c'est que de toute façon, les consommateurs, les clients, vos clients parleront de vous que vous le vouliez.
Ouais, c'est ça.
De toute façon, c'est inéluctable et il n'y a aucun moyen de l'empêcher. On peut pas, il n'y a pas de censure, en tout cas en France.
Ouais.
Et donc, autant préempter le sujet.
Ok, donc toi, ta recommandation, c'est de dire, travaillez sur votre marque, sur cette valeur d'authenticité sur laquelle on reviendra un petit peu après. Ça vous détendra vis-à-vis de ce que vos clients diront de vous?
Bah exactement, c'est que de toute façon, comme vous, on ne peut pas maîtriser ce que les clients disent de la marque, autant faire en sorte qu'on soit acteur de ce sujet-là et qu'on maîtrise le canal, à défaut de maîtriser le contenu.
Très clair. Avis vérifié, au début, c'est des avis texte. Effectivement, ça a plié le marché. Effectivement, ça a fait vibrer certaines marques. En mode, wow, les gens peuvent dire à tout le monde ce qu'ils pensent de nous. C'est vachement dangereux. Et pour autant, bah, comme tu le disais, si je rentre pas dans ce jeu-là, de toute façon, ça va ressortir. Il y avait les forums aussi à l'époque, existent encore, hein, mais qui laissent des tâches un petit peu pour certaines marques. L'avis texte continue d'exister.
Bien sûr.
Il a beaucoup de poids dans le parcours d'achat en termes de valeur de recommandation.
Clé. Il est clé.
Il est même clé. Il y en a plein de nouveaux aussi, des facteurs d'UGC justement qui peuvent augmenter ou influencer le parcours d'achat.
Bah oui, parce que à côté du texte est arrivé le visuel. Et dans le visuel, on peut parler de la photo, donc assez classique sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Et puis depuis quelques temps arrive en force la vidéo. Et donc là où on avait la photo à l'instant T, bah maintenant on a la vidéo et donc la mise en scène. Et puis peut-être à un moment ou un autre le verbal se développera, on verra. Mais en tout cas, il y a maintenant une multiplicité de types de contenus, texte, visuel, enfin ouais. Photo, vidéo, une multiplicité de canaux, les différents réseaux sociaux. Et il y en a peut-être pas un nouveau par jour, mais enfin il y en a quand même, ouais. Il y en a quand même un certain nombre. Et puis une façon de consommer qui n'a fait que s'accélérer. Et on le voit bien, moi j'ai des enfants qui ont deux filles qui ont 20 et 17 ans, elles passent quand même un peu de temps sur les réseaux sociaux. Et je vais pas leur interdire. J'essaye de les éduquer sur le sujet, mais ouais. Je vais pas leur interdire. Donc tout ce contenu est consommé par tout un chacun. Et donc c'est une réalité dont il faut s'occuper.
Ouais,
du point de vue de la marque. Je parle du point de vue de la marque, bien sûr.
Et c'est pas mal de le maîtriser un petit peu aussi. Et c'est ça aussi la proposition de service de Skipper. Ça permet à la marque aussi de donner un cadre dans lequel les consommateurs peuvent s'exprimer.
C'est exactement ça. Je pense que l'ambition n'est pas tellement de permettre aux marques de maîtriser le sujet, elles ne pourront pas, non. Sur le contenu, mais c'est par contre de le préempter et de maîtriser, effectivement, de mettre à disposition des canaux.
Ouais.
Et donc de permettre aux consommateurs de s'exprimer de la manière la plus libre possible, mais sur un canal que la marque met à disposition, les avis par exemple, de façon à pouvoir collecter ce contenu. Et quand il y a des avis négatifs, tout l'enjeu pour une marque, c'est de pouvoir y répondre et de pouvoir argumenter.
Ouais.
Parce qu'il n'y a rien de pire. Des avis positifs, c'est très bien, mais des avis négatifs, ça peut être très enrichissant aussi déjà pour comprendre ce que pense le consommateur. Mmh. Et puis ensuite, pour pouvoir expliquer pourquoi, comment, ce qu'on va faire, comment on y répond,
ouais.
De façon à ce que les autres consommateurs, et là on arrive dans le domaine de l'authenticité, comprennent qu'on est vraiment dans une démarche d'authenticité. Ce sont des contenus authentiques au sens où le client a dit ce qu'il pensait, la marque peut réagir et apporter ses arguments.
Ouais, intéressant. Moi, j'y vois aussi un intérêt pour les marques, c'est de collecter du feedback client, de collecter de la connaissance et de se remettre en question aussi sur leurs process, qu'ils soient industriels, qu'ils soient logistiques, qu'ils soient d'expérience en point de vente. Aujourd'hui, vous arrivez à consolider cette donnée et de ne pas en faire une somme de verbatim de retour quali, mais bien de pouvoir consolider cette information-là pour aider le client à donner un nouveau cap.
Bah, tu parlais tout à l'heure d'innovation et comment on peut être en veille permanente sur le marché, voir ce qui se passe. Bah, l'intelligence artificielle est une bonne illustration de ça.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à collecter des gros volumes de données, il y a évidemment des techniques assez poussées pour faire de l'analyse de texte. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle ou la GenAI plus spécifiquement, on a la capacité de, à la volée, faire des analyses assez poussées et de comprendre finalement la scientifique moelle de chacun des avis ou de la somme des avis qui sont remontés, des feedbacks, des posts sur les réseaux sociaux aussi. C'est intéressant de pouvoir analyser un peu le flux de posts et ce qui se dit sur une marque.
Ouais.
Alors, on avait ça déjà, le social listening, mais c'est des dispositifs qui étaient compliqués. Et de plus en plus, on arrive avec des outils comme intelligence artificielle à avoir des choses beaucoup plus simples d'utilisation. Et avec le petit bémol qui est les fameux travers d'intelligence artificielle qu'il faut pouvoir encadrer et contrôler, évidemment.
Ouais, j'entends bien. Sur cette partie collecte d'insight, est-ce que tu fais notamment écho à la notion d'émotion, à la notion est-ce que j'arrive grâce au verbatim à comprendre si quelque chose est positif, quelque chose est neutre ou quelque chose est négatif, par exemple ?
Par exemple, ça peut être effectivement l'analyse d'un point de vue émotionnel, ça peut être l'analyse très factuelle de savoir est-ce que la couleur des produits plaît, est-ce que leur packaging plaît, que toutes sortes d'analyses qui peuvent être utilisées pour derrière permettre à la marque d'améliorer son produit ou ses services.
Ouais. Donc une valeur d'étude, quoi, presque.
Exactement.
C'est intéressant. Le deuxième sujet que j'aimerais creuser avec toi, c'est... Cette UGC donc, me permet de collecter des insights, de mieux connaître ma cible, mon consommateur. Cette UGC peut aussi me permettre de mieux les cibler et du coup de faire plus de business et d'aller chercher plus d'avis. Il y a un truc assez vertueux derrière tout ça, non ?
Ouais, ça participe pour la marque à la connaissance de ses clients. Et donc, quelles sont leurs appétences, leurs goûts. Et donc derrière, tout l'enjeu... c'est de pouvoir mieux cibler, effectivement. Quand on dit cibler, ça recouvre deux réalités. Un, segmenter sa base client, comprendre, les regrouper. Et puis deux, personnaliser les messages qu'on lui adresse. Moi, je ne suis pas très intéressé pour recevoir aujourd'hui des messages sur des canapés rouges, j'en cherche pas.
Ouais.
Par contre, je suis peut-être plus intéressé par les derniers skis de je ne sais quoi. Voilà, donc comment on peut personnaliser les messages, c'est l'enjeu de toutes les marques. Bien sûr que les UGC permettent de mieux cerner et de mieux décrire finalement sa base client.
Et je crois qu'aussi, intégré dans Lovekeepers, on a la possibilité d'activer de la CDP, pour aussi pousser les segments d'audience qui sont peut-être plus comportementaux, moins déclaratifs, comme on trouve beaucoup sur les GAFAM aujourd'hui.
Oui, on a effectivement une offre, une des entreprises qu'on a rachetée, sur une offre de CDP, ou plus exactement, la capacité à traiter l'ensemble de la données dont on parlait à l'instant, et donc en particulier les UGC, et puis à pouvoir segmenter et personnaliser les messages derrière. Donc, c'est du campaign management.
Oui, d'accord. C'est anciennement Advalo, c'est ça ?
Exactement, anciennement Advalo.
Pour les plus anciens qui nous écoutent. Ok, et donc du coup, voilà, l'UGC n'est pas qu'une fin en soi et qu'une manière de créer du contenu pour la communication des marques, c'est aussi une manière de mieux connaître son audience et par extension de mieux l'adresser dans une logique vertueuse de génération de business, si je le résume. Hein,
complètement.
C'est
complètement.
Ça, ok. Bon, y a un sujet qui revient quand même beaucoup dans nos échanges, Marc, c'est cette notion d'authenticité. Alors c'est marrant parce que l'authenticité, moi souvent je fais des blagues et j'espère que mes prospects et clients se vexeront pas, mais quand on reçoit des plateformes de marques de nos clients, je dirais en moyenne une sur deux qui portent des valeurs d'authenticité. Ce qui est bien hein, d'ailleurs, c'est pas critiquable, mais à un moment c'est peut-être pas suffisamment différenciant. Est-ce que l'authenticité, ça devient une valeur presque prérequis pour une marque ? On peut pas exister en tant que marque si on n'accepte pas d'être transparent et authentique ? C'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, mais...
Non, alors, je sais pas si l'authenticité en tant que telle est une valeur. En tout cas, c'est certainement un comportement. Et ça va peut-être un peu avec sincérité. C'est-à-dire que je dirais qu'une marque, sa communication sera d'autant plus sincère qu'elle est authentique. Et pour attester de son authenticité, c'est utiliser les contenus authentiques, donc ceux des clients, ils sont authentiques parce qu'ils sont réels, ils n'ont pas été transformés. Mmh. Utiliser les contenus authentiques par la marque de manière complètement sincère, ça de manière transparente, pour reprendre le mot que tu utilisais. Mmh. Je ne suis pas sûr qu'une marque puisse se décréter authentique. Par contre, elle peut montrer son authenticité en affichant les contenus qui sont, ou les avis, enfin les intentions qui sont poussées par les consommateurs et qui vont attester, oui ou non, est-ce que c'est conforme à ce que la marque véhicule comme valeur.
Ouais, d'accord. Ok. Et pour autant, pour accepter cette authenticité, c'est presque aussi un levier managérial à un moment. C'est-à-dire, il faut que les équipes acceptent que les consommateurs s'expriment librement sur leurs produits. Est-ce qu'il n'y a pas une passerelle entre ce que tu disais n'étant pas une valeur, mais peut-être une attitude d'une marque versus une attitude d'un manager ou de la conduite d'une équipe, pour faire un peu écho à ce que tu disais?
Ouais, si, certainement. Ouais. On pourrait préciser que de toute façon, si un manager ne veut pas écouter ses clients vont quand même parler. Et ils vont Absolument. Quand même parler avec des caisses de résonance qui s'appellent Instagram ou autre. Ouais. Donc de toute façon, c'est un peu ce qu'on fait passer comme message à nos clients, qui le comprennent très bien d'ailleurs, mais c'est que de toute façon, encore une fois, cette notion d'authenticité, la question n'est pas de savoir tellement si la marque peut se payer le luxe d'être authentique ou pas, ou d'avoir une démarche authentique ou pas, c'est que si elle ne l'est pas, transparente, sincère, de toute façon, ça se verra.
Ouais, c'est ça. Tu l'as évoqué tout à l'heure, l'intelligence artificielle, alors y compris générative, va accélérer la réplication de modèles, de faire de la prédiction, et finalement peut-être un risque à un moment de lisser des choses singulières pour qu'elles puissent se répéter à des modèles qui sont finalement réplicables. Alors j'entends toute la partie utile pour le modèle économique, pour l'analyse, etc. Mais pour la communication des marques, comment est-ce que tu vois l'arrivée de l'IA générative? Tu le vois comme une opportunité ou comme une menace?
Je crois que c'est un petit peu des deux, mais j'aurais plutôt tendance à être du côté de l'opportunité. Ouais.
Tu parlais de réglementation tout à l'heure aussi, je l'ai bien entendu.
Ouais.
De régulation, je crois.
De régulation, effectivement. Bon, il y a forcément des choses qu'il faut encadrer, et on sait que quand on parle d'IA, il y a des sujets d'hallucination, il y a les fakes, voire les deepfakes.
Ouais.
Bon, donc il y a des sujets qu'il faut encadrer. Néanmoins, moi je pense que ça va donner d'autant plus de valeur au contenu dit authentique. Et le contenu authentique, c'est un contenu qui résulte d'une expérience, d'une émotion, d'un vécu. Donc, par définition, jusqu'à preuve du contraire, pas de ce que dit une machine. Mmh. Et donc, ça va donner d'autant plus de valeur à ce contenu authentique à partir du moment où on peut vraiment garantir qu'il est authentique, puisqu'il se différencie du contenu créé par une IA en ce qu'il résulte d'une émotion. Et aujourd'hui, une IA n'a pas d'émotion, ou je ne sais pas si elle en aura un jour. Mmh. On rentre dans des débats peut-être philosophiques. Donc, mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui permet de distinguer un contenu, ou plutôt d'en faire quelque chose de vraiment singulier, c'est qu'il résulte d'une émotion vécue par un client au moment où il va expérimenter un produit, un service. Il va vivre quelque chose, il va le décrire au travers de sa photo, sa vidéo, son texte. Et c'est bien ça qu'on cherche à mettre en avant pour les marques. Ce qui ne veut pas dire que l'IA ne peut pas apporter une puissance de calcul, un enrichissement, bien sûr, une manière de traiter ça de manière industrielle, mais elle ne pourra pas reproduire l'émotion. Et donc, au final, ce qu'on met en avant, c'est le fait que le consommateur a d'autant plus tendance à croire une marque, à acheter ses produits et ses services, donc on parle de business là,
ouais.
À partir du moment où il a bien un témoignage, c'est un peu le bouche-à-oreille 3.0, où il a bien le témoignage d'autres consommateurs qui lui disent « j'ai vécu une super expérience avec cette marque ». Évidemment, si c'est une IA qui lui dit « j'ai vécu une super expérience avec cette marque », ça n'a peut-être pas tout à fait la même portée en termes d'engagement. Et on en revient à la thématique de l'engagement.
On en revient à la thématique de l'engagement en passant par la notion de création d'émotion. Moi, que je trouve super dans ton discours, c'est presque la raison d'être d'une marque, de créer des émotions, en fait. Et j'ai le sentiment, et j'en parle souvent ces derniers temps dans les flashbacks que j'enregistre, de cette notion d'IA. Très souvent, on arrive à la conclusion que c'est un retour aux sources, en fait. De revenir sur... et je vais reparler d'authenticité, mais l'authenticité d'une marque, quelle est l'histoire que je veux raconter, quelles sont les émotions que je veux créer, et ça, l'IA pourra pas le faker, quoi, d'une certaine manière.
Enfin, elle pourra peut-être le faker, mais ça risque de se voir.
Ou ça résonnera pas pareil.
Et ça s'apprend, c'est pas génial.
Ouais.
Et donc, bien sûr, au final, on en revient à un sujet émotionnel. Et en général, les marques qui sont les plus successful du point de vue de la donnée immatérielle sont celles qui sont arrivées à créer un lien émotionnel avec leurs clients.
Ouais.
Et c'est la meilleure manière d'engager les clients.
Et donc, ce serait peut-être ça l'effet menace que tu verrais pour le deuxième pendant de l'intelligence artificielle, notamment générative. C'est-à-dire, à partir du moment où on l'utilise à trop grande échelle, ça joue contre l'authenticité.
Ouais, la menace, je pense que c'est sur l'aspect volume. C'est qu'on voit, de toute façon, on est de plus en plus confronté à un volume important de données qui vient produite par l'IA. C'est une menace. Et en même temps, c'est une opportunité parce que ça va donner d'autant plus de valeur et ça va renforcer d'autant plus la connexion, justement, émotionnelle à partir du moment où on s'appuie sur des contenus authentiques. Mmh. Ou des démarches authentiques. D'ailleurs, je parle de contenu, mais on pourrait élargir un peu le débat, la démarche authentique.
Tu penses à quoi, du coup, quand tu dis démarche authentique ?
Je pense à la manière dont on engage une relation. Je ne suis pas sûr que si demain, c'est une IA qui me contacte au téléphone pour me vendre un produit ou un service, je vais avoir la même réaction que si c'est un humain avec les imperfections de l'humain.
Ok, c'est ça que je vois derrière. Du coup, il n'y a pas beaucoup de distance entre la notion d'authenticité et la notion d'humain.
Complètement.
En fait, c'est ça, c'est ce que tu dis dans ton discours authentique.
Complètement.
C'est des femmes et des hommes qui incarnent un discours.
Et qui sont singuliers. Chacun a sa singularité, et donc qui portent un discours qui est par définition singulier, puisqu'il est propre à chaque personne.
Tokiwoki dans tout ça ? Ça vient augmenter cette authenticité, ça vient augmenter cette capacité des marques à engager.
Tokiwoki, c'est donc une plateforme qui permet de gérer sa communauté client pour une marque. Et en marque blanche, donc là, Tokiwoki n'apparaît pas d'ailleurs, et Skippers n'apparaît pas aujourd'hui, puisque c'est Skippers, mais c'est vraiment la marque qui peut créer son espace un peu privé, son espace de cocooning pour ses clients, ses meilleurs clients, ses ambassadeurs. Et donc, on rejoint cette démarche de comment une marque peut capitaliser sur les contenus authentiques et qui de plus adapté pour produire ou en tout cas qui sur qui capitaliser de plus ou de mieux que les meilleurs clients de la marque.
Ouais.
Et donc l'idée, c'est de permettre à une marque, au travers de l'animation de sa communauté client, de pouvoir solliciter ses clients en leur proposant de partager leur contenu authentique, que ce soit encore une fois des revues, etc. etc.
D'accord.
Et donc d'animer cette communauté client et d'en faire une communauté d'ambassadeurs.
Contexte, par exemple, je suis une marque, je veux lancer un nouveau produit. Ça peut être pas mal de poser la question à mes clients de ce qu'ils en pensent.
Exactement, ça peut être pas mal de poser la question à tes clients de ce qu'ils en pensent, éventuellement de leur dire c'est un nouveau produit cosmétique que je lance, n'hésitez pas à aller mettre un avis sur le site de je ne sais quoi .com ou X, parce que si vous l'aimez, dites-le, si vous l'aimez pas, dites-le, dites pourquoi. Et ces clients-là, par ailleurs, sont ceux qui, en général, c'est un peu la règle des 20-80, mais c'est les 20% de clients qui vont générer le plus de chiffre d'affaires.
Ouais, complètement. Tu penses que c'est une tendance de fond, ça, d'avoir plus de micro-communautés ? On le voit pas mal avec l'usage de WhatsApp, notamment, qui crée ses feeds spécifiques. Insta s'est lancé dedans aussi. Et on a le sentiment que c'est peut-être une tendance de fond avec des communautés de marques qui sont de plus en plus petites, mais de plus en plus engagées. Là, le fait de pouvoir privatiser, je me permets ce terme-là, c'est peut-être pas celui que vous utilisez, mais de privatiser une communauté, c'est une tendance de fond, tu crois ?
En tout cas, je pense que la technologie le permet, on va dire facilement, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, le permet aujourd'hui, donc pourquoi s'en priver ?
Ouais.
Ça fait longtemps que les marques l'ont compris, mais dans le contexte d'aujourd'hui, de plus en plus c'est le cas, c'est un focus sur la rétention client, la fidélité client, travailler la fidélité client. La communauté permet de travailler particulièrement la notion de fidélité client, de s'occuper en priorité de ses clients avant d'aller en chercher de nouveaux. C'est pas exclusif d'ailleurs, mais.
Ouais, mais tu le vois plus sur ce volet-là de rétention client, et je comprends effectivement, particulièrement dans un contexte économique relativement tendu comme celui dans lequel on évolue depuis quelques mois, années maintenant, C'est mieux de fidéliser que d'acquérir des nouveaux clients. Ça coûte toujours moins cher, c'est ce qu'on dit. Tu le vois aussi sous le volet de l'étude, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que ça fait partie de la proposition de valeur de Tokiwoki? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous souhaitez aller aussi? Avant, pour avoir l'avis d'une communauté, ben, je faisais un focus group. Demain, est-ce que je crée une communauté de clients sur Tokiwoki, par exemple?
Pourquoi pas? Je ne crois pas qu'on ait le cas aujourd'hui, mais pourquoi pas?
D'accord.
Pourquoi pas créer une communauté de clients et l'animer autour d'une thématique spécifique qui soit plus uniquement la marque en tant que telle, mais de manière beaucoup plus spécifique et pouvoir en faire une étude. Ce qu'on fait aujourd'hui, nous, par contre, déjà avec Skippers, c'est cette notion de feedback. Et donc, la capacité, au-delà des avis sur des produits ou des services, la capacité à aller demander à une catégorie de clients, en fonction d'une thématique particulière, d'aller demander l'avis des clients sur, par exemple, son expérience en magasin.
D'accord. Ok, ça c'est une autre solution, Skippers.
Feedback.
Ok, qui s'appelle Feedback.
Ouais.
Ok. Et donc à la fin, tout ça, ben, ça permet encore une fois d'alimenter, toujours d'augmenter cette connaissance client à des fins business.
Et d'être plus à même de répondre correctement aux attentes des clients.
Ok, très bien. Écoute, c'est passionnant et je vois à quel point en l'espace de quelques années seulement, Skippers est capable d'adresser cette proposition de valeur XXL. Aujourd'hui, vos clients, ils picorent un petit peu de l'offre A et un petit peu de l'offre B, ou est-ce qu'ils prennent plutôt la globalité de l'offre Skippers? Comment est-ce que ça se consomme, Skippers, en tant que marque?
Alors, comment est-ce que ça se consomme? Bah, en fait, on parle de one-stop shop. Donc, notre ambition, c'est vraiment de pouvoir proposer une offre, une plateforme, qui permette à nos clients d'adresser l'ensemble de leurs besoins autour de la thématique UGC au travers des solutions Skippers. Mais on propose également une offre, enfin un usage modulaire. Et donc un client qui ne voudrait faire que des avis, il peut bien évidemment prendre uniquement la solution d'avis.
Ouais, d'accord.
De plus en plus, l'enjeu pour nous et pour nos clients, nous le pensons en tout cas, c'est de pouvoir utiliser tous les ponts que nous sommes en train de créer, que nous avons créés entre les différentes solutions. Puisqu'évidemment, à partir du moment où on capture une information à un endroit, tout l'enjeu et toute la valeur, c'est de pouvoir réexploiter cette information dans les différents processus qui vont être... Par exemple, si je donne un exemple très bête, mais à partir du moment où je vais renseigner mon catalogue produit dans une solution, bah, si je peux le retrouver dans l'ensemble des solutions qui permettent de raccrocher un UGC, un avis, une photo qui a été publiée à mon produit, bah, j'y trouve beaucoup de valeur.
Ok, je comprends. Pour toi, les grandes tendances de l'UGC là, de ces 3-4 prochaines années, pour toi, ça va être quoi pour les marques?
Bah, on a beaucoup le sujet de la vidéo, évidemment.
Ouais.
On le voit avec TikTok et les usages de TikTok qui explosent sur la vidéo. Donc la vidéo est un vrai sujet, avec d'ailleurs aussi là des outils d'intelligence artificielle qui peuvent permettre de faciliter la compréhension ou l'analyse de tout ce qui se fait, parce que on va pas regarder une vidéo des milliers de vidéos de 30 secondes, donc il faut pouvoir comprendre, analyser un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait autour de la marque. Il y a un gros enjeu autour du live commerce. Alors, on pourrait dire d'ailleurs plutôt social commerce plus généralement, et puis ensuite le live. Le live, c'est quelque chose qui a explosé en Asie, qui a un peu frémi, on va dire, aux États-Unis et puis en Europe. Mais néanmoins, on sent bien qu'il y a quelque chose, une tendance de fond qui petit à petit se développe sur tout ce qui se passe autour du social commerce et du live commerce. Et le live commerce, là, c'est plutôt le côté expérientiel.
Ouais, ouais.
C'est grosso modo comment on peut quelque part réenchanter un peu la démarche d'achat en ligne, où c'est peut-être un contenu un peu franc en général, en tout cas pas très humain. Bah, le live shopping, ça amène une dimension très humaine à ce sujet-là.
Sur quelle plateforme? Aujourd'hui, c'est principalement social media, ou est-ce que vous créez des plateformes qui permettent à une marque de déployer du live shopping?
Alors nous, on a une plateforme,
vous avez la
qui
plateforme
permet à une marque de faire ses propres live shopping.
Je crée ma boutique en ligne, en gros, instantanément.
Exactement.
Quoi, ouais.
Exactement. Et puis ensuite, je vais animer ça sous la forme d'un live qui permet, qui a un impact fort sur la conversion. Après, l'enjeu, c'est évidemment d'attirer des spectateurs,
ouais.
Pour le coup, parce qu'on parle des acteurs, d'ailleurs plus que spectateurs, sont vraiment des acteurs, puisque ce sont des consommateurs qui rejoignent le live, mais qui vont être acteurs du live, et pas uniquement spectateurs.
Donc c'est-à-dire qu'ils vont interagir, ils vont pouvoir
bien
poser
sûr, ils
des
vont
questions.
Interagir, poser des questions, acheter en live en cliquant sur le produit. Donc il y a vraiment une notion d'interaction qui est assez sympa dans un monde, il y a 20 ans on connaissait le téléachat, enfin pas que...
C'est ce que j'allais dire,
c'était le téléachat
pas très éloigné du téléachat.
n'étaient pas du tout acteurs, on était spectateurs.
Ouais.
Bah, le live shopping, c'est une notion de spectacle finalement.
Okay.
Et certaines marques ont su très bien le développer et l'utiliser.
T'as quelques exemples à nous partager ?
Oui, je pense qu'un un des grands succès du live shopping que nous avons avec un de nos clients, c'est Micromania.
Ouais.
Au Micromania, ils ont su créer un événement autour du live shopping avec un animateur spécialiste du jeu vidéo et une référence dans le monde du jeu vidéo, une communauté petit à petit qui s'est fédérée autour des lives et qui est devenue fidèle. Mmh. Et donc, ils en font des événements à chaque fois, pas forcément très scénarisés d'ailleurs, mais quand même un peu. Voilà, donc c'est une expérience, une nouvelle expérience qu'ils proposent à leurs consommateurs au-delà de la visite en magasin ou au-delà du classique site e-commerce.
Ok. Très bien. Donc, vidéo, social commerce.
Tout ce qui tourne autour de l'IA, ça, c'est sûr qu'il y a des gros enjeux autour de ce sujet-là. Sous deux aspects, hein, c'est comment différencier ou comment plutôt, comme je disais tout à l'heure, mettre en avant la valeur des contenus authentiques versus les contenus créés par une IA. Mmh. Et puis le deuxième sujet, c'est comment augmenter finalement la réalité du quotidien des consommateurs ou des marques dans leur usage au quotidien. Et donc, par exemple, c'est la capacité pour une marque à suggérer au travers d'une analyse, à suggérer à un consommateur, donne-moi ton avis sur tel ou tel sujet, sans lui poser une question directement, mais que tout ceci vienne assez naturellement, au travers d'analyses, d'algorithmes qui vont permettre de dire au consommateur, tiens, sur les, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais les 10 derniers jours, les autres consommateurs ont beaucoup parlé de cette thématique-là, qu'en penses-tu? Et puis,
le
consommateur puisse répondre.
Et... Ouais.
Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on va pouvoir amener beaucoup plus d'intelligence, en fait, dans la manière de collecter du feedback.
Ouais.
Quand je dis feedback, je pense à UGC,
ouais.
De collecter des UGC et donc pour permettre aux marques, bien évidemment, les utiliser dans leur communication, mais aussi de mieux comprendre quelles sont les attentes de leurs consommateurs.
Ouais, je comprends. Souvent, les tendances de fond comme ça, elles sont portées par le B2C avec du volume. Et puis, bah, souvent, le B2B, il suit, mais pas très loin derrière. Tu vois une tendance de fond, toi, et je pense notamment au social commerce. Moi, ça me fait assez vite penser à du salon, aussi du salon professionnel. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est trop tôt?
Alors, en tout cas, l'apport de la technologie dans toutes les démarches en B2B, y a quand même beaucoup de choses qui se font. Maintenant, mais ça, c'est peut-être plutôt une dimension personnelle, maintenant, je crois assez peu qu'on arrivera à remplacer le contact humain, la socialisation, ou, enfin bref, l'échange social et amical d'ailleurs, par des touchpoints technologiques. Donc,
c'est vrai.
Touchpoints digitaux purs. Alors, je dis ça, et en même temps, il y a post-Covid et puis avant Covid. Avant Covid, la visioconférence n'existait quasiment pas. Ouais. Maintenant, je dois passer la moitié de ma journée en visioconférence. Donc, bon, voilà.
Mais il faudra un autre Covid pour mettre tout le monde d'accord.
Je crois que quand même, les salons, en tout cas, les salons, nous, c'est un moment. Alors, on essaye d'être assez sélectif parce que ça reprend des investissements qui sont conséquents.
Et oui.
Mais c'est aussi un moment où on crée un lien avec les personnes qui n'est pas du tout de même nature que le truc en visioconférence où on
bien
a
sûr.
45 minutes 0 seconde pour s'exprimer.
J'entends bien, mais même sans remplacer, parce que tu vois finalement le social commerce ne remplace pas les boutiques.
C'est vrai, non,
c'est juste en complément, effectivement, de créer un instant d'échange qui soit différent et qui soit peut-être plus... Bon, c'était juste une idée
mais
en tout cas, tu ne le vois pas. Toi, tu as peu de personnes sur du B2B, peu de clients sur du B2B qui activent ce canal-là aujourd'hui. Je fais référence au social, au live commerce principalement.
Alors, nous, en fait, on a assez peu de clients B2B.
Ouais.
On est très sur le B2C.
Ouais.
Et pour une raison peut-être, je sais pas, alors quoique l'UGC pourrait très bien s'appliquer au domaine du B2B de manière plus... mais quand même la dimension dont je parlais tout à l'heure qui est le lien émotionnel, il est quand même beaucoup plus fort et beaucoup plus important dans le B2C qu'il n'est dans le B2B.
Ouais.
Je dis pas que les marques sont pas importantes dans le B2B, elles le sont beaucoup, mais c'est pas du tout la même relation qu'avec un consommateur. On est d'une relation d'entreprise à entreprise, même s'il y a l'individu qui joue, mais d'entreprise à entreprise, on va dire que les critères sont peut-être un petit peu plus objectifs que dans une relation d'une entreprise à un consommateur ou d'une marque à un consommateur.
Ouais, on n'appelle pas aux mêmes émotions, sans doute.
Non.
Ouais, c'est ça, on peut le dire comme ça.
Exactement. Okay.
Bon, écoute, on arrive au terme déjà de notre échange, cher Marc. Moi, j'aimerais bien te poser deux, trois petites questions en conclusion. On aime bien clôturer comme ça sur Flashback. Et une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu ferais de plus si tu avais un jour en plus par semaine?
Alors, je ferais beaucoup plus de sport.
Ah oui, mais tu vois, on y revient. Hein. Ouais, ça manque ça. C'est une échappatoire un peu le soir.
Ouais. Ouais. Ouais, et surtout quand on habite Paris, en fait, c'est quand même le fait de pouvoir faire du sport, c'est quand même un anti-stress naturel.
Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Et une journée par semaine, ce serait pas de trop pour.
Et une journée par semaine, ce serait pas de trop, non.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au Marc qui a 20 ans?
De foncer.
Ouais.
De pas attendre.
La vitesse.
Ouais, la vitesse, je pense, de bousculer un peu les choses. Et moi, j'aime bien les gens qui bousculent, d'ailleurs, qui ont de l'énergie et qui ont envie. Par moments, il faut canaliser un peu, mais quand même, la vie est courte, j'allais dire, ça fait un peu vieux. Mais il faut y aller, quoi. Il faut foncer, il y a plein de choses à faire.
Ouais. Et tu serais plutôt à avoir la culture du risque, en disant, si je me trompe, j'ai appris.
Alors j'ai définitivement une grande admiration pour les gens qui prennent beaucoup plus de risques que j'en ai pris, c'est-à-dire les entrepreneurs, parce que moi j'ai une mentalité d'entrepreneur, mais je n'ai pas été entrepreneur en tant que tel. Et donc j'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs, et c'est sûr que le couple rentabilité-risque, ça c'est mon passé de financier, il n'y a pas de rentabilité sans risque. Donc prenez des risques quand vous êtes jeune, allez-y, il n'y a rien à perdre.
Ça c'est un beau message. Et dis-moi, je t'en pose une dernière. J'hésite entre deux, je vais peut-être t'en poser deux dernières. Mais il y en a une que j'aime bien, c'est qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait ce métier-là, si tu n'avais pas été CEO de Skippers?
Je crois que j'aime beaucoup la montagne et je me demande si j'avais eu les capacités mentales et physiques, je pense que j'aurais aimé être guide en montagne.
Très bien.
Prof de ski, guide, quelque chose autour de la montagne.
Ok, et pas très loin de sport non plus, pas très loin des sports.
Ouais,
je vois bien. Je te pose une dernière question, Marc, avant de clôturer ce flashback. Est-ce que tu accepterais de donner un conseil à notre audience pour bien concilier vie pro et vie perso?
Alors, le bien, je vais pas être la meilleure référence.
Pour essayer de bien.
Parce que, voilà, parce que malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, les deux se mêlent parfois, mais surtout dans la tête. Oui. Au sens où c'est difficile de tourner la page et de fermer le volet pro quand on est en week-end. Mais néanmoins, et je vais revenir sur une thématique qu'on a abordée plusieurs fois, le sport. Enfin, le sport, l'activité physique, le grand air, je crois que c'est un des moyens que moi j'utilise.
Voilà un super message à partager avec nos auditrices et auditeurs. Merci beaucoup, Marc, d'avoir passé ce moment avec nous. Je retiens de cet échange la culture de l'engagement, la culture du dépassement de l'effort que tu as réussi à mettre au service de la constitution de ce groupe qui est devenu Skippers. Félicitations pour ça et merci surtout d'avoir partagé cette expérience-là et ta vision avec l'audience de Flashback. Flashback, ça reprend le mois prochain. Merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao.
Flashback est un podcast produit par l'agence Intuiti. N'hésitez pas à enregistrer le podcast dans vos favoris et même, soyons fous, à le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous en voulez plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Decrypt avec 3i pour être tenu au courant de nos prochains épisodes et en bonus, vous y trouverez toute l'actualité pour mener à bien vos stratégies marketing et expérience client. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en accompagnement, en acquisition, refonte, strat média et podcast. Et à nous laisser votre avis. Vous n'imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir. À très vite. Flashback.